les voies de l'égalité. Bonjour à tous et bienvenue dans les voies de l'égalité. Cette semaine, nous laissons la place à la solidarité avec le festival Solidays qui a été annulé en raison des fortes chaleurs qui a eu des conséquences bien au-delà du volet culturel. Cet événement constitue l'une des principales sources de financement de l'association Solidarité SIDA qui soutient depuis de nombreuses années la recherche, la sensibilisation et l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH. Face à cette situation exceptionnelle, Nicolas Aragona, citoyen engagé au quotidien sur les réseaux sociaux avec le compte Super Séro, a lancé une cagnotte nationale afin de mobiliser le grand public. Et pour comprendre les raisons de cette initiative et mesurer également l'élan de solidarité qu'elle suscite, on en parle tout de suite avec lui. Nicolas Aragona, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Vous avez choisi de consacrer votre compte Super Séro pour faire de l'information et de la sensibilisation autour du VIH. Vous luttez également contre la sérophobie. À l'annonce de l'annulation du festival Solidays, votre première réaction a été de lancer immédiatement la cagnotte.
Oui, parce que moi, chaque année, je suis invité au Solidays dans la partie média avec les créateurs de contenu. Et donc, j'étais présent à Paris. Moi, je ne suis pas de Paris, je suis de Nice. L'annonce, elle a été extrêmement brutale puisque c'était quelques heures avant l'ouverture du festival. Je connais aussi surtout l'impact que ça a directement puisque en Solidays annulé, c'est à peu près 3 millions d'euros de pertes qui ne servira pas à accompagner des associations à l'échelle mondiale pour lutter contre le VIH et accompagner les personnes vivant avec le VIH. Ce qui m'a fait en flash, c'est 3 millions, ça fait combien de morts ? On est dans un contexte qui est très particulier, puisqu'il y a quelques années, les États-Unis ont coupé la PEPFAR, qui représentait à peu près la moitié des financements mondiaux des luttes contre les épidémies, et on sait que ça va générer des millions de morts supplémentaires d'ici 2030. On sait aussi que la France a réduit son budget dans les luttes contre les épidémies à l'échelle mondiale, donc je crains aussi un retour de la pandémie, je parle vraiment en tant que citoyen. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a une crise du préservatif en Chine aussi. C'est un contexte qui est vraiment très alarmant.
Les réseaux sociaux sont souvent critiqués, mais cette mobilisation communautaire montre bien que les réseaux peuvent être un formidable outil de solidarité, puisqu'il y a plus de 9000 euros qui ont déjà été collectés. Vous avez réussi, vous réussissez à mobiliser des milliers de personnes pour soutenir une association de santé publique. Est-ce que la cagnotte continue à grimper et que permettront les fonds qui seront collectés?
On a une première vague où on se stabilise vers 9-10 000 euros. Là, c'est normal, à un moment, ça commence un peu à flancher, donc ils vont relancer un peu de la communication. Le deuxième événement, c'est qu'avec Yacine Djebounoir, qui est le président de Chaîne France, on a décidé de lancer un gala qui sera sûrement en décembre, pendant la semaine du 1er décembre, de la journée de lutte mondiale contre le sida. Pareil, pour continuer à récolter des fonds pour Solidarité Sida. Notre objectif, je pense qu'on pourrait arriver à entre 40 et 50 000 euros, j'espère. Maintenant, c'est sûr qu'on est très loin des 3 millions. Le premier objectif, déjà, c'est de remobiliser autour de Solidays et de Solidarité Sida et de repolitiser l'événement et de faire comprendre aux gens, notamment aux politiques, quand ils ont parlé à la télé, on avait l'impression qu'ils annulaient un événement festif. Solidays, c'est pas qu'un événement festif. Enfin, c'est festif, mais c'est pas que ça. C'est l'un des plus grands festivals de récolte de fonds pour aider des actions solidaires. Après, cet argent-là, il va directement être reversé à Solidarité Sida.
Cet événement, c'est l'une des principales sources de financement de l'association.
Il me semble, oui. Enfin, c'est la plus grosse, je pense. Ils doivent en avoir d'autres. Après, je vous avoue que je n'ai pas épluché. En tout cas, je sais que je crois que depuis que Solidarité Sida lance Solidays, je crois qu'ils sont quasiment à 40 millions d'euros, je crois. Si je dis pas de bêtises, je crois. À peu près, c'est 3 millions par Solidays. Et pour revenir sur la question des réseaux sociaux aussi, je pense qu'il y a aussi une tension générationnelle où j'ai l'impression qu'on met beaucoup en avant les pires choses qu'on puisse trouver sur les réseaux, mais il faut quand même pas oublier que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui sont des citoyens engagés, qui sont militants, qui parlent de féminisme, qui parlent de pédocriminalité, qui luttent contre le racisme, etc. Et il y a plein d'actions comme ça qui sont incroyables. On a vu même avec Gaza le nombre de cagnottes qui ont été faites. Et c'est pas vraiment des actions qu'on a l'habitude de mettre en avant à la télévision. Donc il faut pas oublier que sur les réseaux, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Et on est plein à faire des actions qui sont vraiment engagées de manière citoyenne.
Donc au-delà de l'urgence financière, cette mobilisation, c'est un peu aussi une manière pour vous de rappeler que la sensibilisation, la lutte contre les préjugés sur le VIH reste un combat d'actualité.
Disons qu'elle est malheureusement d'actualité, oui, et en même temps, malheureusement, personne n'en parle, quoi. C'est vrai que c'est très compliqué à amener comme sujet, et même moi, chaque année au Solidays, c'est un événement qui est assez compliqué. émotionnellement, parce que je suis toujours dans la partie média, donc où il y a d'autres créateurs de contenu, et pourtant ce sont des créateurs de contenu qui sont eux aussi engagés sur des luttes, mais je le vois bien, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience de l'événement dans lequel ils sont, c'est-à-dire qu'ils sont plus en train de profiter, de créer du réseau entre eux et d'aller profiter des concerts, mais en réalité je suis là, je crois que je suis officiellement la seule personne vivant avec le VIH qui est présent dans l'espace média en tant que créateur engagé, et il n'y a pas cette action de venir soit vers moi pour me poser des questions sur le sujet, soit de même l'initiative de parler de sérophobie. Heureusement, il y a Isa qui avait le compte Abresseur, qui elle est présente maintenant chaque année et qui est à mon sens la seule personne vraiment qui vient en Solid Days, qui n'est pas concernée et qui en parle, donc qui vient au festival, mais qui vient surtout pour militer. Heureusement qu'elle est là parce que ça, c'est un énorme support émotionnel pour moi.
Vous menez beaucoup d'actions dans l'année, vous êtes sur les réseaux chaque jour, mais vous êtes aussi sur le terrain. Vous collaborez avec des centres hospitaliers, est-ce que vous donnez des conférences dans les universités ?
Ça m'arrive, c'est assez aléatoire. Ce qui arrive le plus souvent, ce sont des accompagnements, parce qu'on n'est pas beaucoup de personnes avec le VIH sur les réseaux. On est 5-6, il y a Val, il y a Papillon, il y a Thierry, il y a Romain, on est quelques-uns sur les réseaux où on a énormément du coup de demandes. Parce que si vous tapez VIH compte francophone, il y a beaucoup de personnes qui parlent de VIH ou de sérophobie en tant que personne vivant avec le VIH sur les réseaux, mais qui sont des contenus hispaniques, anglophones, etc. Mais francophones, on est 6, à peu près 6-7. Donc on se retrouve avec des demandes qui sont énormes et aussi beaucoup de pays africains qui sont francophones. Donc avec des personnes qui sont dans des ruptures de traitement ou qui sont surtout dans des pays où ils sont menacés de mort parce que peut-être homosexuels ou des femmes et isolées. On s'est retrouvé le mois dernier à accompagner une femme qui a été violée, qui s'est retrouvée enceinte, son frère avait tenté de l'égorger, elle s'est retrouvée à la rue enceinte avec le VIH, sans traitement, sans argent. On a aussi accompagné une personne que je donne des noms d'emprunt à chaque fois, c'est pas leur vrai prénom, mais Youssef, qui a été agressé par son père, qui a eu le VIH aussi suite à une agression sexuelle, qui s'est retrouvé à la rue, et on a mis à peu près 6 mois, notamment avec Charme France pour l'accompagner, déjà lui mettre une cagnotte en place pour qu'il puisse rapidement trouver un logement, acheter un téléphone, parce qu'il contactait avec nous avec un genre de work café, déjà pour le mettre en sécurité et qu'il puisse payer les déplacements pour aller dans une grande ville où il y avait un hôpital. Il y a des pays où le traitement en théorie est accessible, mais il faut aussi pouvoir s'y rendre parce qu'il y a des déserts médicaux. Et on a bien mis 6 mois, ça c'est surtout Yacine et Shams France qui s'en est occupés, pour travailler avec l'ambassade, pour arriver à le faire venir en France. Là maintenant, aujourd'hui, il est en sécurité, d'ailleurs, en ce moment, il est à la maison. Il est arrivé à Paris, on est arrivé à lui trouver un hébergement. Là maintenant, il est stabilisé depuis quelques mois, et puis il m'a fait la surprise de venir me voir à Nice, maintenant qu'il m'a installé, quoi.
Vous avez imaginé une peluche qui représente le VIH et vous avez expliqué qu'elle permet de rendre visible quelque chose qui par définition ne l'est pas. Est-ce que cette peluche est aujourd'hui utilisée comme un support de sensibilisation auprès des adolescents dans les centres sociaux ?
Non, c'est pas le cas, mais j'adorais. J'ai Romain qui tient le collectif qu'on a monté et qui en fait maintenant aujourd'hui lui-même avec des crochets. Donc avec le crochet, il va faire ses VIH. On a de fortes demandes d'un point de vue des personnes isolées, mais au niveau des structures, on n'est pas ultra accompagné. Il y a ce projet qui est toujours d'actualité, mais il faudrait que quelqu'un, en fait, un jour, puisse comprendre ne serait-ce que déjà l'intérêt de l'outil. Je pense qu'on n'en est même pas là, malheureusement. On n'en est même pas à parler de discrimination ou de sérophobie. On a aussi beaucoup de discrimination dans les milieux médicaux, donc on est quand même vraiment un peu en retard. Mais c'est vrai qu'idéalement, cet outil, il permet à la fois d'avoir un objet culturel et de pouvoir déjà permettre aux gens d'acheter des peluches pour soutenir l'association et pour pouvoir montrer quelque chose, avoir quelque chose à montrer, et puis c'est un objet un peu de curiosité, c'est quoi que t'as comme peluche, et puis ça permet de parler de ça. Mais idéalement, moi derrière, j'aurais adoré que ça soit aussi un outil pédagogique pour les enfants. Par exemple, des parents vivant avec le VIH qui peuvent expliquer à leur enfant leur affection, comment ça fonctionne, etc.
Finalement, cette peluche peut être un moyen de dédramatiser le sujet pour mieux en parler. Ça peut faciliter les échanges, ouvrir des discussions, sans pour autant en minimiser les enjeux. Par exemple, auprès des jeunes dans les MJC, dans les collèges, les lycées.
Exactement. Et puis je pense que ce qui était intéressant, il y avait l'idée de faire la peluche avec le VIH, mais il y avait aussi l'idée de faire la peluche avec les globules blancs, avec les traitements, en expliquant les différentes molécules, puisque le traitement il est compliqué, c'est des multithérapies, il y a des inhibiteurs de transcriptase, de protéase, etc. Donc l'idée était vraiment de simplifier au maximum maximum un peu le cycle de vie du VIH pour expliquer aux gens vraiment comment fonctionne une épidémie. On a un peu commencé à comprendre avec la Covid, mais ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'il y a une différence entre une maladie et une infection. Et que beaucoup de gens encore parlent encore d'MST, alors qu'en fait, les MST, ça n'existe pas. Il n'y a pas de maladie sexuellement transmissible, il y a des infections sexuellement transmissibles. C'est important de faire la différence parce qu'une infection peut être asymptomatique. C'est-à-dire et qu'une personne qui vit avec le VIH, qui a donc une infection, qui est chronique, si elle prend un traitement, elle ne le prend pas pour se soigner, parce qu'à proprement parler, elle n'est pas malade, elle prend pour contrôler l'infection et, entre guillemets, endormir le virus pour qu'il soit inactif. Même quand on vit avec le VIH, le traitement qu'on prend, il est préventif en réalité. C'est pas un traitement qui nous soigne. C'était vraiment aussi l'idée de pouvoir dédramatiser, de dire, voilà, quand on vit avec le VIH aujourd'hui, les personnes séropositives sont pas dangereuses, au contraire, elles sont la solution à l'épidémie, parce que plus il y a de personnes séropositives, moins il y a de personnes qui s'ignorent être porteuses du VIH. Il faut comprendre qu'il n'y a pas les séronégatifs et les séropositifs. Il y a ceux qui se dépistent et ceux qui ne se dépistent pas. Mmh. Ceux qui connaissent leur statut et ceux qui ne le connaissent pas. Le but, évidemment, c'est pas qu'il y ait de plus en plus de personnes infectées. Le but, c'est qu'on dépiste de plus en plus les personnes qui sont porteuses, donc les personnes séro-ignorantes. Il y a aussi l'initiation d'une personne vivant avec le VIH engagée, qui est en train de créer un bouquin à destination des enfants pour parler du VIH. Et je pense qu'il y a toutes ces questions psychosociales qui sont pas du tout traitées encore aujourd'hui. C'est Sophie Elena, la personne qui est en train d'écrire ce livre-là, et c'est le château fort imprenable, je crois. Je pense que pendant très longtemps, on a fait peur autour du VIH, alors qu'aujourd'hui, quand on a le VIH, qu'on est dépisté à temps, qu'on est traité, on a une espérance de vie qui est normale, on ne transmet plus le virus, c'est important de le dire, donc on peut avoir des enfants. C'est-à-dire que moi, avec mon mari, on n'a pas besoin de mettre de préservatif. Bien évidemment qu'avant, on a fait un bilan complet des IST, mais il n'y a aucun risque de transmission. On peut avoir des enfants, une espérance de vie qui est normale, enfin, tout va bien du moment que c'est pris en charge. Ce qui est dangereux avec le VIH, c'est de ne pas le savoir, parce que si on a le VIH, qu'on est infecté et qu'on ne se dépiste pas, le VIH, la plupart du temps, il est asymptomatique, en moyenne jusqu'à 8 ans. Ça veut dire que pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, on peut avoir le VIH sans le savoir et le transmettre sans s'en rendre compte. Et à un moment, on va développer une phase sida avec un effondrement du système immunitaire. Et puis là, ça se complique parce qu'on développe des maladies opportunistes qui, pour le coup, peuvent être très handicapantes, voire mortelles si on ne fait rien. Et je pense que pendant très longtemps, on a fait peur avec le VIH. C'était quelque chose qui reste aussi des années 80-90. Oui. Mais malheureusement, on voit bien aujourd'hui que la peur, elle ne suffit pas parce que la peur, elle a amené aussi beaucoup de déni. Beaucoup de gens qui ont peur de se faire dépister parce qu'ils ont peur d'apprendre qu'ils ont le VIH, et aussi beaucoup de discrimination, parce que qui dit avoir peur du VIH dit ne pas être informé correctement, dit stigmatiser les personnes séropositives. Et stigmatiser les personnes séropositives, concrètement, c'est stigmatiser les personnes qui se dépistent. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette addition-là. Et quand on essaie d'expliquer ça aux gens, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont des biais sérophobes qui me disent « c'est terrible ce que vous faites parce que vous banalisez ». Mais on ne banalise pas le VIH. Ce qu'on banalise, c'est les personnes vivant avec le VIH. Ce qu'on banalise, c'est l'information. Ce qu'on banalise, c'est le dépistage. Maintenant, le VIH, c'est un virus. Ce qu'il faut, c'est le maîtriser, c'est le comprendre et surtout prendre conscience qu'on a tous les outils depuis quasiment 30 ans pour arrêter l'épidémie. Donc aujourd'hui, la lutte, elle n'est pas contre le sida en réalité. C'est une lutte qui est politique, c'est une lutte qui est médiatique. Mais quand on sait qu'on a des traitements efficaces depuis 30 ans, qu'on a des outils comme la PrEP, qui est un traitement qui protège du VIH, et qu'on a des outils comme le TPE, qui est un traitement post-exposition, c'est-à-dire qu'après un rapport à risque, une capote qui craque, on peut prendre ce traitement aux urgences dans les 48 heures qui va éliminer le VIH si on a été en contact. Enfin, je veux dire, on a tous les outils pour que l'épidémie, elle soit contrôlée. Et là, ce qu'on observe, c'est un rebond de l'épidémie et surtout un retour à une pandémie monstrueuse si personne ne fait rien. Et on voit bien avec le Solidays que Solidays a été annulé. Ce qui est bien, c'est que quand même sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui ont fait des vidéos pour dire « mon Dieu, c'est terrible ». Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai pas l'impression qu'on ait fait grand-chose. L'État qui a annulé, et je débat pas là-dessus, je pense que c'était sûrement une bonne chose d'annuler parce qu'il y avait cette période de canicule, mais c'est qu'est-ce que l'État propose en contrepartie? Est-ce que ça serait pas le temps de mettre en place un genre de téléthon ou d'émission? Je veux dire, c'est pas très compliqué de dire il faut faire une grande émission de soutien à Solidarité Sida pour être sûr que l'année prochaine on ait encore un Solidays.
Et d'ailleurs, je voulais vous poser cette question. Les épisodes de forte chaleur sont de plus en plus fréquents. À votre avis, est-ce que les associations devraient repenser leur modèle de financement pour faire face à ce genre d'aléas climatiques ?
Je suis pas du tout spécialiste là-dessus, mais c'est vrai que quand on voit les vagues de chaleur, peut-être que repenser la période C'est la seule chose que je me suis dit, c'est de me dire, c'est vrai qu'on sait qu'on va avoir de plus en plus de vagues de chaleur et plus tôt, donc peut-être que la solution, c'est que le Solid Days se fasse le mois d'avant. En tout cas, le modèle du festival est quand même un modèle qui fonctionne bien. Et puis ça amène beaucoup de jeunes aussi. Et puis il y a les conférences qui sont présentes, il y a des personnes séropositives qui prennent la parole sur scène. Le seul reproche que j'aurais pu faire, c'est le manque de politisation. J'espérais que plus d'artistes réagissent là, suite à l'annulation du Solid Days. J'ai l'impression d'être un peu le seul à essayer de proposer quelque chose, quoi. Je pense que je sais qu'il y a quelques artistes quand même qui ont fait quelques petits concerts à droite à gauche de soutien, et c'est super, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression que les gens réagissent de manière à la hauteur de la gravité de ce qui se passe. Je pense que les gens réalisent pas.
On rappelle que la cagnotte a atteint les 9 250 € à ce jour, et il est toujours possible de faire des dons sur la plateforme Leti, Sauvons Solid Days. Et vous pouvez également soutenir les actions et suivre Nicolas Ragona sur son compte Super Cero. Bien entendu, ceci n'était qu'une expérience sonore. Les voix de l'égalité.